France Inter.
Bonsoir Christelle Rebière.
Bonsoir Marie et merci, bonne soirée. Pour nous tout commence, le je déclare ouvert le 18-20 de France Inter. Installez-vous confortablement, attachez votre ceinture. Décollage imminent pour un tour du monde avec escale. Bonsoir Kevin Dufraîche.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, la fermeté annoncée de Gabriel Attal qui fait réagir.
Sur le sujet des violences des jeunes, le temps des mots est passé, nous attendons des actes, estime Marine Le Pen. Ça c'est pour la politique, quand du côté de l'éducation nationale, interrogation notamment quant à la proposition de retirer des points sur le brevet ou le bac aux élèves en cas de fait grave au sein des établissements. Les détails dès le début de ce journal. Et vous en parlez, Christelle, avec votre invitée.
Lydia Advenier, proviseure dans l'Allier, membre du SNPDEN, le principal syndicat des chefs d'établissement. Elle sera l'invitée, effectivement, de ce journal. Les autres titres.
L'énorme inquiétude, je cite, de l'OMS sur la grippe aviaire et les cas de transmission à l'homme. La Palestine peut-elle devenir État membre de l'ONU? Le Conseil de sécurité vote, c'est surtout symbolique, on verra pourquoi. Et puis les mini-maisons très en vogue, peut-être bientôt des logements sociaux.
Dans le 18-20, ce soir, un voyage dans le temps. D'abord, le réalisateur oscarisé Steve McQueen nous emmène à Amsterdam durant la Deuxième Guerre mondiale entre chasse aux juifs, suicide et actes de résistance. Il s'arrête devant des centaines d'adresses et nous raconte leur histoire, mais sur des images du présent, c'est saisissant. Son film s'appelle Occupied City et il sera l'invité d'un jour dans le monde. Kevin Dufraîche dans Sous les radars nous parlera d'une collecte de fonds lancée par les citoyens slovaques pour fournir des munitions à l'Ukraine. Le Monde à 18h50 avec les 150 jours au pouvoir de Javier Milei. Où en est son programme économique à la tronçonneuse en Argentine? Et puis Stéphane Jourdain dans la Tech la première nous dira que l'avenir de l'intelligence artificielle se joue à Paris. En deuxième heure, le téléphone sonne, tous en chœur. On compte 3,5 millions de chanteurs amateurs dans notre pays. Alors pourquoi ce besoin d'être ensemble? Est-ce du loisir ou plus encore? Que vous apporte le chant? Donnez-nous le là, 01 45 24 7000.
France Inter.
Contre la violence des jeunes, Gabriel Attal a donc fait appel à la force des symboles aujourd'hui.
D'abord parce qu'il a choisi ce thème pour s'exprimer durant plus de 40 minutes ce matin à l'occasion de ses 100 jours à Matignon et parce que c'est devant l'hôtel de ville de Viry-Châtillon qu'il s'est exprimé, cette commune de l'Essonne où Chemseddine, 15 ans, a été battu à mort il y a 15 jours à la sortie de son collège. Sursaut d'autorité, la culture de l'excuse, c'est fini. Voilà quelques exemples du ton employé pour ce qui est de l'école. Gabriel Attal envisage de sanctionner les élèves qui perturbent gravement les cours en retirant des points lors des examens principaux, avec une mention au dossier scolaire. On va revenir sur l'école dans un instant avec notre invité, mais d'abord Ariane Grissel, bonsoir.
Bonsoir.
Le Premier ministre ouvre aussi plusieurs pistes de réflexion du côté judiciaire pour répondre à ces violences.
Oui, ce qu'il appelle ouvrir le débat, par exemple, sur ce que l'on nomme l'excuse de minorité. Aujourd'hui, en principe, les peines de prison sont divisées par deux, pour les jeunes de 13 à 17 ans par rapport aux majeurs. Précisons tout de même qu'elle peut déjà être levée, cette excuse de minorité, pour les plus de 16 ans dans certains cas. Débat aussi sur la future possibilité de pouvoir juger des mineurs en comparution immédiate à partir de 16 ans. Le Premier ministre cite l'exemple d'un adolescent arrêté en même temps qu'un majeur. Ce dernier sera jugé immédiatement, le jeune plus tard, ce qui peut, estime Gabriel Attal, lui donner le sentiment de mieux s'en sortir. Et puis, toujours du côté des peines, une réflexion est portée sur le fait que la justice puisse sanctionner un mineur à partir de 13 ans sans passer par un procès, si l'adolescent reconnaît les faits et se dit prêt à accepter la sanction.
Ça, c'est pour l'aspect répressif, Ariane, mais la justice peut aussi servir d'outil pédagogique.
Oui, avec notamment l'idée de repérer les mineurs sur la mauvaise pente et de les emmener à une audience de comparution immédiate. Façon de rappeler, dit le Premier ministre, qu'il y a des règles et des sanctions si elles ne sont pas respectées. Toujours côté pédagogie, vous avez aussi cette idée de mesure dite d'intérêt éducatif pour les moins de 16 ans, l'équivalent du travail d'intérêt général, sauf qu'on n'a pas le droit en France de faire travailler les moins de 16 ans. Et puis une alternative au couvre-feu, des places en foyer du soir au matin, des lieux qui dépendent de la protection judiciaire de la jeunesse. L'entourage du Premier ministre assure qu'il va trouver les places près de 45 minutes. Donc ce matin, deux pistes de réflexion, le tout, dit Gabriel Attal, va donner lieu maintenant à 8 semaines de travaux avec un premier point d'étape dans un mois.
Ariane Grissel, service police-justice de France Inter. La remise en cause de l'excuse de minorité, vous en parliez, c'est une proposition portée de longue date par la droite LR et l'extrême droite. Pourtant, Marine Le Pen, pour le Rassemblement National, ne semble pas convaincue par les annonces ni par les mots employés par le Premier ministre.
Ah oui, c'est sûr, j'aurais pu les utiliser. Mais nous sommes toujours dans les mots. Et nous, ce que nous attendons, au nom des millions de Français qui votent pour nous, ce sont des actes. Voilà. Le temps des mots est passé, Gabriel. La moitié de ce qu'il a dit est juste, moi, Premier ministre, je vais m'engager à faire appliquer la loi. Oui, ce serait pas mal, en effet. Moi, j'attends de voir la réalité des consignes qui seront données au parquet. J'attends de voir la réalité du nombre de procédures qui seront engagées, notamment contre les parents défaillants, parce que pour l'instant, c'était à peu près proche de zéro. Moi, je n'ai aucune raison de faire confiance spontanément à Gabriel Attal sur ces sujets-là. Les gouvernements Macron ont été terriblement défaillants dans le domaine de l'autorité de l'État.
Marine Le Pen au micro d'Audrey Tison. Réaction depuis de la Réunion où la députée RN est en campagne pour les élections européennes. Pour ce qui est de l'école, entre nouvelles annoncées et redites, le Premier ministre promet entre autres le placement en internat de certains jeunes pour éviter, je cite, les mauvaises fréquentations, un contrat d'engagement à respecter l'autorité et les valeurs de la République, signé entre les établissements, les parents et les élèves, plus de sanctions à l'école primaire aussi, et puis plusieurs mesures annoncées visant précisément les élèves qui posent les problèmes les plus graves, donc dans le secondaire, collège, lycée. Lorsqu'on dégrade, qu'on menace, voire que l'on agresse, ça ne doit jamais rester sans conséquences, dit Gabriel Attal.
Bonsoir Lydia Advenier.
Bonsoir.
Vous êtes proviseur du lycée Théodore de Banville à Moulins dans l'Allier et vous représentez aussi le syndicat des chefs d'établissement, le SNPDEN UNSA. Gabriel Attal a beaucoup insisté sur le nécessaire retour de l'autorité à l'école. Est-ce que vous faites le même constat ?
Non. Non, je ne fais pas le même constat. Je ne pense pas que l'autorité ait disparu à l'école. Je pense que on continue d'appliquer toutes les sanctions qui sont prévues dans les règlements intérieurs, puisque les règlements intérieurs existent. Donc l'autorité n'a pas disparu, on l'applique.
Alors le Premier ministre prévoit contre les élèves qui auraient perturbé la vie de leur établissement de retirer des points sur le brevet ou le bac. Il prévoit aussi que cette mention soit indiquée dans leur dossier Parcoursup, sauf s'ils exécutent des travaux d'intérêt général. Y êtes-vous favorable ?
Non.
Renon donc.
Renon. Oui. Déjà, c'est contraire à ce que l'on applique depuis des années, puisque les résultats scolaires des élèves doivent être décorrélés de leur comportement. C'est fait partie du code de l'éducation. On ne doit pas, au travers d'un bulletin scolaire, sanctionner le comportement d'un élève, donc a fortiori dans son dossier Parcoursup. Après, il y a des mises en garde pédagogiques qui existent dans tous les établissements, y compris pour des problèmes de comportement, mais ça ne doit pas porter préjudice à l'évaluation, à la notation, si vous voulez. Donc, enlever des points par rapport à un problème de comportement, on est en train d'associer deux choses
qui ne devraient pas l'être, en fait, c'est ça ?
Exactement. Mmh. Quand on évalue des résultats scolaires, on évalue une production d'élèves. Mmh. Après, il y a d'autres systèmes pour sanctionner des comportements qui ne seraient pas conformes.
Par exemple ?
Mais c'est autre chose. Par exemple, alors, on a de tout ce qui est prévu dans un règlement, y compris dans le code de l'éducation, donc des sanctions, d'avertissement, de blâme, des exclusions temporaires, des exclusions même définitives si elles sont prononcées par le conseil de discipline. On a des mesures de réparation aussi, je vous entendais évoquer des travaux d'intérêt général.
Oui.
Ça existe, hein, bien sûr, si on fait des conventions avec des associations, on peut très bien avoir, au lieu d'avoir 3 jours d'exclusion à rester confiné à la maison, ça peut être aussi en relation avec une association, faire des travaux d'intérêt général.
Alors, autre aspect, le Premier ministre évoque aussi un contrat d'engagement à respecter l'autorité et les valeurs de la République, un contrat entre les parents, les établissements et les élèves. Et il pourrait y avoir des sanctions, voire une saisie de la justice. Ça veut dire qu'il vous engage, vous, un peu plus encore dans ce respect de l'autorité ?
Alors, déjà, le règlement intérieur, il est signé par les parents et par les élèves. Alors, si c'est ce contrat-là dont on parle, je dirais qu'il n'y a rien de nouveau. Mmh. Si on parle d'un autre contrat, alors là, il va falloir modifier effectivement les textes, en particulier le code de l'éducation. Et si les parents ne respectaient pas ce contrat et que les personnels de direction doivent appliquer une sanction, je m'interroge sur la légitimité qu'ils auraient à prononcer une sanction envers des parents. Mmh. Nous, on s'occupe des élèves, voilà.
Et pas des parents. Bon, et puis enfin, alors...
On travaille avec les parents, mais on ne...
Oui, mais à distance,
pas, les parents. Voilà,
pas directement. Juste pour finir rapidement, il y a aussi cette idée de scolariser les collégiens tous les jours de la semaine entre 8h et 18h, surtout dans les quartiers prioritaires. Comment imaginez-vous cette nouvelle organisation ?
Pas très bien.
C'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué à mettre en place, il faudrait des moyens supplémentaires, c'est ça ?
Alors, déjà, il faut des moyens supplémentaires. Il faut, alors, après, tout dépend du lieu où on habite. Par exemple, il y a un problème très concret des transports scolaires. Voilà. Il y a beaucoup d'établissements qui ne sont pas parisiens et qui sont soumis aux transports scolaires.
Oui,
donc, en fonction des transports, les établissements adaptent leurs horaires. Mmh. Ensuite, cours se termine à 17h, ce qui est souvent le cas en collège. Quid des personnes qui les encadrent de 17h à 18h ?
Oui, c'est ça, il vous faudrait plus de bras pour ça. Pardon, je suis obligée de vous interrompre
parce qu'on arrive à la
fin de cette interview. Merci beaucoup Lydia de venir.
Oui, surtout qu'on supprime des postes d'assistant d'éducation en même temps qu'on voudrait faire de l'éducatif. Donc c'est pas très cohérent.
C'est incompatible pour l'instant. Merci beaucoup.
L'actualité ce soir, c'est aussi un nouvel acte de violence près d'une école. Mais là, il ne s'agit absolument pas de l'acte d'un élève, mais d'un homme armé d'un couteau qui a blessé légèrement deux fillettes. Ça s'est passé cet après-midi à Souffelweyersheim en Alsace. Le suspect a été interpellé, Antoine Balandra.
C'est vers 14h20 tout à l'heure qu'un homme d'une trentaine d'années, décrit par des témoins comme roux, avec un pantalon bleu, s'en est pris à une fillette de 6 ans. Elle a été touchée légèrement à la joue. Il a ensuite attaqué une jeune fille de 11 ans dans un parc voisin. Cet homme, décrit comme atteint de troubles mentaux, a été interpellé quelques rues plus loin par les gendarmes. Très vite, les parents se sont rassemblés devant l'école, mais les enfants sont restés confinés environ 2 heures dans les classes, portes fermées par sécurité. D'après plusieurs sources, une jeune adolescente de 14 ans du collège voisin des Sept Arpents a ensuite fait un arrêt cardiaque pendant le confinement. Elle est ce soir dans un état très grave. Les parents de l'école d'Annenberger, quartier très calme d'ordinaire, ont ensuite récupéré au compte-gouttes leurs enfants. Le dispositif de sécurité reste conséquent ce soir ici à Souffelweyersheim.
Antoine Balandra, France Bleu Alsace, et la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, parle ce soir, je cite, d'un nouvel acte insupportable.
De nouveaux mots très forts dans la bouche du secrétaire général des Nations Unies.
Le Moyen-Orient est au bord du précipice. Alerte Antonio Guterres, évoquant le risque d'un conflit régional généralisé pour ce qui est de la situation des populations dans la bande de Gaza. Il estime que les opérations de l'armée israélienne ont créé, je cite, un enfer humanitaire. Le conseil de propos tenu devant le Conseil de sécurité qui doit se prononcer aujourd'hui ou demain sur cette question. La Palestine peut-elle devenir un État membre à part entière des Nations Unies ? Demande formulée par les Palestiniens eux-mêmes qui pour le moment ne sont qu'observateurs et qui est avant tout symbolique, Étienne Menin, parce qu'elle a peu de chances d'aboutir.
Oui, c'est ça, c'est assez peu probable. C'est une démarche essentiellement symbolique. Pour devenir le 194e membre de l'ONU, il faut d'abord passer deux étapes, obtenir 9 votes favorables sur 15 au Conseil de sécurité de l'ONU, puis une majorité des 2/3 devant l'Assemblée générale. Alors la Palestine peut compter sur le soutien de l'Assemblée générale, mais elle devrait se heurter au veto des États-Unis dès le début de la procédure devant le Conseil de sécurité. Diplomatiquement, les États-Unis considèrent que la reconnaissance de la Palestine doit se faire dans le cadre d'un accord avec Israël, qui est aujourd'hui farouchement opposé. Et politiquement, l'Amérique devrait soutenir Tel Aviv dans ce dossier pour tenter de contenir la riposte de l'État hébreu après l'attaque iranienne. Ça n'est pas la première fois que la Palestine demande un siège de membre à l'ONU. La première requête remonte à 13 ans. À l'époque, elle n'avait pas abouti, mais elle avait ouvert la voie au statut d'observateur. Depuis, ce sont les mêmes dirigeants qui tentent à nouveau la démarche. Cela témoigne d'un manque de vitalité démocratique à Ramallah, mais cela permet au moins de faire émerger la question palestinienne qui reste occultée malgré la guerre à Gaza.
Étienne Monin de la rédaction internationale de France Inter. Plus de 10 000 personnes évacuées en Indonésie alors que le volcan Ruang continue de cracher son immense panache de fumée. Les autorités alertent les habitants sur le risque de projection de roches incandescentes et même de tsunamis qui pourraient être provoqués par l'effondrement d'une partie du volcan dans la mer.
À la grippe aviaire surveillée de très près.
Oui, parce que la souche H5N1 se répand dans le monde entier, une propagation synonyme d'énormes inquiétude, dit ce soir le scientifique en chef de l'OMS. Le virus, comme son nom l'indique, touche d'abord et en très grande majorité les oiseaux et les volailles. Mais bonsoir Alice Cachaner.
Bonsoir.
Mais ce qui inquiète l'OMS, ce sont les transmissions de plus en plus fréquentes à d'autres espèces, y compris les humains.
Oui, la grippe aviaire qui touche les hommes, ce n'est pas vraiment nouveau. En 20 ans, 889 cas ont été recensés dans une vingtaine de pays. Un faible niveau de transmission donc, mais la maladie est très sévère. Dans un cas sur deux, le patient décède. Et il se trouve que ces dernières années, eh bien, on a observé une recrudescence de grippe aviaire chez les oiseaux sauvages et domestiques. Une épidémie qui a été contrôlée en France grâce à un vaccin, notamment dans les élevages de canards. Mais le problème, eh bien, c'est que ce virus prolifère partout dans le monde et il se transmet des oiseaux aux mammifères, explique Brigitte Autran, présidente du COVARS, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, au micro de France Info.
Les oiseaux du monde entier transmettent depuis un an ou deux leur virus à des mammifères sur l'ensemble des continents de la planète, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie, partout. Et le fait que le virus passe à des mammifères fait que le virus va s'adapter, nous-mêmes, une espèce de mammifère, et donc il y a un risque qu'il y ait une transmission à l'homme.
Le virus peut donc muter et se propager encore davantage. Récemment, des bovins ont été touchés aux États-Unis. Le COVARS appelle donc à accélérer le niveau de surveillance, notamment auprès des éleveurs. Pour l'heure, et c'est un facteur rassurant, aucune transmission d'homme à homme n'a été enregistrée.
Alice Cachaner, service sciences, santé, environnement de France Inter. L'abus de pouvoir d'une république bananière. Voilà comment Jean-Luc Mélenchon qualifie la décision de la préfecture du Nord ce soir d'annuler sa conférence sur la Palestine à Lille, invoquant un risque de trouble à l'ordre public alors que cette réunion fait polémique depuis le début de la semaine, d'abord prévue à l'université de Lille qui a fini par l'annuler. La France insoumise dépose un recours en justice contre cette décision et appelle à un rassemblement en extérieur à partir de 18h30 à Lille.
De l'habitat social d'un nouveau genre face à la crise du logement.
Les tiny houses, ces mini-maisons bon marché, plus écologiques. Aujourd'hui, ce sont surtout des résidences secondaires pour ceux qui vivent dans les grandes villes, mais les intégrer dans les plans locaux d'urbanisme et les certifier logements sociaux. Voilà la proposition que vous révèle France Inter en exclusivité ce soir, faite par le ministère de la Transformation et de la Fonction publique, en partenariat avec le groupe de réflexion Impact Tank. Les tiny houses pour répondre au mal-logement, ça existe déjà. Dans la métropole de Rouen, par exemple, des sans-abri en bénéficient. Reportage Maxime Glorieux.
3 ans à la rue et finalement un toit pour Maddy, une mini-maison en bois, tout équipé, un lit, une douche, des toilettes et une cuisine.
Je ne suis pas un vrai cuisinier, mais quand même, je me débrouille pas mal.
2 semaines lui auront suffi à trouver un travail dans le bâtiment.
Si on n'a pas de logement, on ne peut pas travailler.
280 euros de loyer couvert par l'allocation logement, un dispositif vertueux selon le fondateur Franck Renaudin.
Si demain, on veut qu'il n'y ait plus personne qui dorme à la rue, il faut impérativement passer par le développement de ce mode d'habitat.
Les négociations ont duré 4 ans, mais la métropole de Rouen vient tout juste d'intégrer ces tiny house dans le PLU, le plan local d'urbanisme. Problème, il faut maintenant trouver des terrains.
Qu'on ne limite pas notre implantation à des terrains constructibles, qu'on puisse bénéficier de terrains compatibles avec nos petites maisons qui n'ont pas de fondation, qui sont facilement déplaçables.
Les considérer comme des logements sociaux serait donc une solution.
Ça changerait beaucoup de choses en termes d'accès à des terrains supplémentaires par rapport à toutes les communes en déficit de logements sociaux. À chaque fois qu'elles accueilleront une mini-maison, elles cocheront un logement social supplémentaire et ça changerait aussi en termes de financement des maisons, puisque les bailleurs sociaux pourront faire l'acquisition de ces maisons avec des fonds publics.
En attendant, faute de terrain, 12 mini-maisons sont stockées. L'une d'entre elles partira pour Bordeaux, où le projet a inspiré une association locale.
Maxime Glorieux, enfin y aura-t-il une équipe française dans le dernier carré des 3 Coupes d'Europe de foot? Réponse ce soir, ce ne sera pas facile, mais c'est possible. Pour Marseille et Lille, toutes les deux battues 2-1 à l'aller en Ligue Europa. L'OM reçoit le Benfica au Vélodrome à 21h. Les Lillois, eux, accueillent Aston Villa, c'est de la Ligue Europa Conférence et ça commence dans une vingtaine de minutes.
Et vous revenez dans une vingtaine de minutes aussi. À tout à l'heure. On jette un œil vers le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Christelle, bonsoir à tous.
C'est le retour au calme dans le sud.
Oui, les averses localement orageuses sont en train de devenir plus rares et vont même disparaître dans la soirée. Alors en Corse, l'accalmie sera plus tardive et interviendra plutôt en fin de nuit. Demain sera une journée largement ensoleillée entre la Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et les régions de la Méditerranée. Sur les Savoies, le ciel deviendra tout de même un peu plus variable l'après-midi. Sur les Pays de la Loire et la Bretagne, le soleil du matin laissera place à un ciel plus nuageux l'après-midi. Ces nuages viennent d'une perturbation qui va s'infiltrer sur le nord-est. La partie active de cette perturbation donnera d'ailleurs des pluies entre la Champagne-Ardenne et l'Alsace. L'après-midi, ces pluies gagneront également la Bourgogne-Franche-Comté. Sur la Normandie, les Hauts-de-France et le bassin parisien, la couche nuageuse sera plus morcelée et il faut s'attendre à quelques averses. Ces averses seront surtout marquées demain après-midi au nord de la Seine.
Et des températures toujours fraîches.
Oui, la nuit prochaine s'annonce d'ailleurs assez froide. Les gelées étaient isolées et cantonnées au nord-est la nuit dernière. Cette nuit, elles seront plus étendues et plus fréquentes, touchant également les plaines du sud-ouest. Il fera par exemple moins 1 degré à Nevers et à Auch, par exemple. Les maximales seront, elles, plutôt en hausse, retrouvant des valeurs de saison sous le soleil du sud. Il fera 17 degrés à Lyon et Nantes, 19 degrés à Marseille et Toulouse, 20 degrés à Bordeaux, Biarritz et Ajaccio, et jusqu'à 23 degrés à Perpignan, alors qu'on attend 11 degrés à Strasbourg et à Metz, 12 degrés à Lille, 13 degrés pour Paris, Rouen et Besançon, et 14 degrés du côté de Brest.
Merci Sébastien, et vous revenez tout à l'heure après le journal de 19h.